selon Caroline Fourest.
Bonjour Caroline Fourest.
Bonjour Guillaume.
Ce lundi, vous revenez sur le phénomène nuit debout à la croisée de chemin entre convergence et concurrence des luttes.
On aurait tort de qualifier trop précisément ce qui se passe place de la République. Nuit debout s'auto-définit et se redéfinit chaque soir. Il faudra donc connaître son issue pour savoir de quoi cette mobilisation était le nom. Mais il existe deux perceptions à son sujet. Une perception sceptique qui pense qu'elle connaîtra la même impasse qu'Occupy Wall Street. Et une perception plus enthousiaste, celle-là espère depuis longtemps un mouvement d'indignés, voire un Podemos à la française, et jusqu'ici rien n'a pris. Sans doute parce que nous sommes dans une situation très différente de l'Espagne, et surtout de la Grèce. Aussi parce que nous vivons sous la menace d'un mal terroriste plus visiblement brutal que le capitalisme ou la flexibilité. Notre mouvement d'indignés à nous a été la marche du 11 janvier, 4 millions de personnes dans les rues, ce qui ne veut pas dire que les milliers de manifestants qui occupent des places ne disent rien de la désespérance sociale et politique qui gronde dans ce pays. Le risque d'attentat ne peut pas justifier d'oublier ces luttes, mais à l'inverse, une lutte sociale peut-elle rassembler la gauche en oubliant ce climat si particulier?
Au vu des réactions de médias proches de Nuit Debout, le débat sur le voile ou même sur le salafisme semble plutôt perçu, en tout cas, comme une diversion.
Oui, comme si personne dans les médias ne parlait de la loi travail, de ce qui se passe à République ou des Panama Papers, comme s'il fallait tout le temps opposer lutte sociale et lutte contre le totalitarisme. Cette façon de faire passer le rêve d'un grand soir sur le corps des autres luttes, notamment des femmes, au nom du front principal, c'est vraiment un classique. En 1905 comme dans les années 70, au moment du MLF, déjà des militants gauchistes jugeaient que ces combats étaient secondaires ou bourgeois. Sauf que le grand soir n'est jamais venu et le corps des femmes, lui, est toujours en lutte et la guerre des gauches continue. Alors pour faire court, la gauche Mediapart considère que la priorité des priorités est uniquement de taper sur le gouvernement, quoi qu'ils disent, qu'ils parlent du travail ou du terrorisme, et de le faire, ce qui est plus grave, en compagnie de tous ses opposants, fussent-ils anti-Charlie et intégristes. La gauche Charlie, elle, aimerait articuler lutte sociale et lutte laïque, mais se voit accusée d'être une gauche identitaire si elle ose penser que les droits des femmes doivent continuer à être défendus contre le patriarcat religieux, et si elle pense que le combat contre le nouveau totalitarisme obscurantiste n'est pas tout à fait secondaire. Alors pour le moment, ces deux gauches cohabitent à peu près, place de la République. La question est de savoir si elles peuvent former un mouvement commun, si Nuit Debout est une bougie qu'on allume à côté de celle déposée sur cette même place de la République pour les victimes des attentats, ou s'il s'agit d'un feu de paille qui finira par opposer les bougies entre elles.
Est-ce que vous avez un pronostic, Caroline?
Écoutez, pour l'instant, quoi qu'en disent les mauvaises langues, et malgré un mode autogestionnaire apparemment, les plus aguerris de Nuit Debout ont plutôt bien résisté aux tentatives de radicalisation, notamment aux indigènes de la République qui ont essayé de lancer leur slogan habituel, intégriste, sans grand succès. Ils semblent assez dépités par ce mouvement dit bobo, enfin aussi bobo qu'eux, hein, au passage. Le barrage tient un peu moins concernant les actes de vandalisme approuvés par certains manifestants comme des actes de colère légitimes, au milieu d'un mouvement qui est quand même plutôt inspiré par la non-violence. Mais alors, que va-t-il se passer ensuite? Ceux qui ont lancé la mobilisation ne veulent pas partir dans tous les sens, ni faire du surplace. Et ils font le constat d'être une foule assez homogène, donc pour y remédier, ils envisagent de délocaliser Nuit Debout en banlieue, pour faire banlieue debout, c'est une piste, à condition de ne pas passer de la convergence des luttes à une vision communautaire de l'intersectionnalité des luttes.
Qu'est-ce donc que l'intersectionnalité ?
Écoutez, c'est un mot que certains utilisent pour parler des convergences des luttes, mais que d'autres emploient de façon très différente et minée. Quand Frédéric Lordon, par exemple, un des économistes emblématiques de Nuit Debout, parle de convergence des luttes, il rêve d'unir les ouvriers, les sans-papiers, les réfugiés, les chauffeurs de taxi victimes de l'ubérisation, les agriculteurs bio et toutes les victimes de la jungle capitaliste, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, pour écrire une république plus sociale. Mais pour d'autres, l'intersectionnalité relève d'une vision bien plus américanisée et ghettoisée. Aux États-Unis, le concept est né pour tenir compte des discriminations multiples, comme être femme et noir, mais il a fini par opposer le féminisme dit noir au féminisme dit blanc, et jugé donc bourgeois parce que blanc. Concrètement, si l'intersectionnalité façon indigène de la République devait remplacer la convergence des luttes à Nuit Debout, sa commission féminisme, qui existe, pourrait réclamer surtout le droit de se voiler et de se prostituer au nom d'un féminisme queer et islamiste, complètement incohérent et antiprogressiste, mais soudé par la détestation commune de l'universalisme. Mais je vous rassure, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Nuit Debout tient bon à éviter cet écueil. Mais entre l'énergie qu'il faudra pour maintenir le cap de la non-violence et celui de la République sociale, on peut se dire que la nuit sera longue, très longue, pour inventer un monde nouveau et faire mentir les sceptiques.
Merci beaucoup Caroline Fourest. On peut évidemment retrouver votre chronique sur le site de France Culture où l'on peut la télécharger